Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
18h33, vous êtes habitués maintenant à retrouver les grandes voix du dimanche soir. Et les grandes voix ce soir sont Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe politique au Parisien, et Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'Institut IFOP. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
On a à peine effleuré la rentrée, chers amis, que l'actualité politique est dense. Et je vais commencer par la fin. On vient de l'évoquer juste à la fin de l'interview avec Franck Louvrier, cette image d'Édouard Philippe avec des maires de droite, des maires qui disent vouloir peser politiquement dans la présidentielle, même se structurer. Donc on pense évidemment à la création d'un parti. Vous en pensez quoi, Jeannick?
Alors, création d'un parti, je n'en suis pas sûre. Et à quoi
structuré, je prends le mot structuré, oui. Et j'essaye dans mon esprit malade de m'imaginer quelque chose.
Oui, mais... Non, votre esprit malade, non, certainement pas, mais en tout cas une structuration et une sorte de courant d'influence et de force politique.
Lobbying, oui.
De lobbying ancré quand même, comme le disait votre invité précédent, les élus locaux ont une énorme importance et ont des responsabilités et un rôle extrêmement stratégique et dans la vie quotidienne et dans la crise et politiquement, bien évidemment, hein, notamment pendant cette période.
Mais ce n'est pas anodin que ce soit en présence d'Édouard Philippe. On peut dire, bah oui, mais c'est un élu du Havre, enfin au-delà de ça.
Non, ce n'est pas anodin, bien sûr, il faudrait être bien naïf, mais pour répondre quand même à votre question, je ne pense pas que ce soit Édouard Philippe 2022, c'est certainement Emmanuel Macron 2022, comme il y a eu déjà plusieurs tentatives sous le
avec
paquet.
Le poids du coup d'Édouard Philippe en forme de turbo,
oui,
j'allais dire.
Oui, en plus, Édouard Philippe avait été Premier ministre et s'était déjà appuyé sur ce réseau d'élus locaux. Mais là, vous avez raison, ça donne peut-être plus de visibilité et de symbolique. En tout cas,
Frédéric Dabi.
Oui, je retiens les termes visibilité et symbolique. Quelle est la situation d'Édouard Philippe? Il a quitté Matignon avec un capital exceptionnel de popularité. C'est une véritable état de grâce. Et donc, dans ce cadre, faire quoi de cette popularité, de ce capital? Il peut se dilapider. Bien sûr, et je partage ce que vient de dire Jeannick Halimi, une candidature contre Emmanuel Macron, ça, c'est absolument impensable compte tenu de la cohérence d'Édouard Philippe.
Donc
c'est...
on ne peut pas faire un parallèle avec Hollande-Macron.
Non, je pense que c'est un...
Loyauté, mais pas de loyauté, puis finalement une candidature.
Je ne pense pas. Dans les enquêtes de l'IFOP, j'étais frappé dans la période 2017-2020 à quel point les Français avaient le sentiment qu'il y avait un couple exécutif uni. Rien à voir avec les tiraillements perçus entre François Hollande et Emmanuel Valls, les tensions avec Nicolas Sarkozy
et les tensions entre Emmanuel Valls
Fillon.
Et Emmanuel Macron,
tout à fait,
qui était à l'époque
tout
ministre
à fait. Et donc c'est vrai que pour Édouard Philippe, il joue peut-être la case d'après, il se rappelle au bon souvenir des Français, il passe pas, non pas par la case parti, mais par la case élu. Et c'est vrai que Franck Louvrier le disait, à quel point, dans un contexte où l'État, on a eu le sentiment qu'il a été défaillant dans la crise sanitaire, les élus locaux, les solutions locales, les élus territoriaux ont la cote auprès des Français. Et c'est vrai que là, il est avec des maires macro-compatibles ou plutôt indépendants. C'est une manière de se souvenir, de se rappeler, je pense, au bon souvenir des Français, même si à court terme, en termes d'impact, je pense que ça ne sera pas très fort.
Là où je vous rejoignais, en revanche, c'est pour 2027. Et à travers les réponses de Franck Louvrier, qui était bien sûr toujours en subtilité.
Mesuré,
et je trouve en subtilité, je pense qu'il y a peut-être un premier pas qui est fait vers une restructuration de la droite au sens large du terme, droite, on va dire républicaine, LR et centre, une sorte de grande UMP autour d'une personnalité comme Édouard Philippe, souvenons-nous, qui vient de la droite, qui s'est rallié quand même, à un Macron qui était et de droite et de gauche, et de plus en plus tout de même au centre et au centre-droit. Et moi, je trouve que Franck Louvrier n'a pas du tout répondu et fermé la porte à la question que vous posiez, et que un LR bon teint, comme Franck Louvrier, qui le rappelait conseiller, et très fort conseiller de Nicolas Sarkozy, qu'il évoque la possibilité, pas la probabilité, mais la possibilité, même en esquisse, d'un porte-drapeau d'une droite élargie au centre avec Édouard Philippe, donc comme incarnation pour le quinquennat prochain, pour dans 5 ans et demi maintenant. Je trouve que là, c'est peut-être une piste sur laquelle tous les élus et les responsables politiques de droite et de centre, à mon avis, réfléchissent et se penchent.
Vous vous souvenez ce que disait Mitterrand du centre? Le centre n'est ni de gauche, ni de gauche.
Ni de gauche. Donc, voilà.
On a aussi pu paraphraser la phrase d'Alfred Jarry sur ça se passe en Pologne, ça se passe nulle part, ça se passe au centre, ça se passe peut-être aussi nulle part de ce point de vue-là.
J'aime bien c'est... quand on attaque la Pologne comme ça. Ouais. Je ne le prends pas du tout personnellement.
Je vous prie de m'en excuser. Je n'avais plus ça en tête.
C'est pas grave. Woody Allen l'a fait aussi dans un film.
Exactement.
Je crois que c'est Mort mystérieux à Manhattan. Merci. Effectivement. Chaque fois que j'écoute Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne.
Voilà. Alors maintenant, Yannick Halimi se projette sur 2027. 2022, c'est quand même la chose la plus importante. Mais c'est vrai que c'est une élection capitale par sa dramaturgie, car c'est le coup, si je puis dire, final, et ça peut être dramatique pour la droite si elle perd pour la troisième fois de suite l'élection présidentielle. Et donc là, une solution, Édouard Philippe, une explosion de LR, tous les scénarios sont possibles. C'est aussi une élection capitale pour le PS, qui lui aussi, les deux grands partis de gouvernement, seraient en situation de perdre pour la deuxième et troisième fois de suite l'élection présidentielle. Tout ça, on a beaucoup parlé de la recomposition, du Big Bang en 2017, ce sera encore plus terrible en 2022, même si aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion, mais elles ne sont pas prophétiques ni projectives, on est plutôt sur une réélection d'Emmanuel Macron.
Sur cette formation, évidemment, si on suit le train de ce que vous dites, et notamment du centre, si on a la formation d'un groupuscule, d'un système de lobby ou ce que vous voulez autour d'Édouard Philippe, est-ce qu'on n'est pas là en train de reformer ce qui manquait à la droite, c'est-à-dire ce noyau juppéiste, juppéen, qui avait plus ou moins disparu et qui pourrait du coup jouer un rôle très important?
J'entends ce que vous dites, mais c'est peut-être ce qui manque à Emmanuel Macron. À savoir un parti.
Ou au LR. Oui. Parce qu'en attendant, on a quand même une droitisation du discours, que ce soit chez Pécresse, Ciotti évidemment, chez Michel Barnier aussi, alors qu'en réalité, on le voyait comme un européiste, etc. Oui. Mais on entend aussi ce qu'il dit.
Les leaders de droite sont tous...
Je suis perdu, là.
Il n'y a pas de perdu. Je pense que les leaders de droite...
On va vous retrouver, ne vous inquiétez pas.
Et je ferai court, les leaders de droite voient que le point faible aujourd'hui dans l'opinion d'Emmanuel Macron, ce sont les questions régaliennes, les questions identitaires, et tous et toutes tapent. On a vu ce matin sur Europe 1, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Xavier Bertrand taper sur Emmanuel Macron. Donc, dans ce cadre-là, la droite tape là où ça fait mal, et là où c'est le seul domaine où les Français ont le sentiment qu'Emmanuel Macron n'agit pas assez.
Yannick Halimi.
Là où je rejoins Frédéric Dabi, c'est qu'effectivement, on est en 2022 et que pour 2022, c'est l'interrogation Macron, quid au second tour. Là, il n'y a aucune divergence entre nous, et je pense que la réponse que vous a faite, encore une fois, les réponses que vous a faites, Franck Louvrier, pour moi, à mon avis, signifie que pour lui, les LR, quel que soit le ou la candidate LR, n'aura malheureusement, aux yeux de Franck Louvrier, sa place au second tour pour la présidentielle de 2022. Mais là, à mon humble avis, c'est très compliqué. On ne va pas redécliner les raisons pour lesquelles il risque déjà d'avoir deux candidats LR, entre guillemets, droite républicaine, même s'ils n'ont pas l'étiquette LR, ne serait-ce que pour ça, et pour bien d'autres raisons encore, notamment peut-être la percée, peut-être, d'Éric Zemmour, qui risque de porter beaucoup plus...
Vous aussi, vous dites Zemmour, parce que Bernard Sananès aussi dit Zemmour,
Je crois qu'il dit Zemmour, lui.
Je ne sais pas, il y en a deux, donc je dis Zemmour. Enfin, vous voyez de qui je veux parler.
Oui, bon, je vois très bien.
Voilà, c'est ça qui compte.
J'aime bien les gens qui disent Zemmour.
Ah bon, écoutez, je veux dire Zemmour, alors, si vous voulez. Zemmour.
C'est ça, c'était ça, mon idée.
Bon, risque de porter encore plus préjudice au LR depuis que Laurent Wauquiez a décidé de ne pas se présenter qu'au RN. Mais ça, je vais vite, où je suis peut-être moins d'accord, avec Frédéric. C'est sur la déliquescence annoncée des LR. Certes, s'il rate pour une troisième fois, ce sera extrêmement grave. Mais il y a un autre parti qui risque de rater également pour la énième fois, c'est le Rassemblement National. Même s'il y a plus de probabilité pour que le RN soit au second tour plus que les LR, si Marine Le Pen rate son tour, ce sera quand même un échec. Et donc, à gauche, on peut dire à peu près la même chose sur Jean-Luc Mélenchon s'il ratait sa troisième candidature. Moi, je ne pense pas que si Mélenchon à gauche rate, ou le PS rate, ou les écolos ratent, et si les LR ratent, et si les RN ratent, il y aura table rase et il y aura une sorte de Macronie omnipotente. Bien évidemment, on est en démocratie. Et je rebondis sur ce qui était votre problématique, c'est-à-dire Édouard Philippe. Ouais. Je pense qu'il y a une recomposition, une résurgence, une renaissance, une résurrection de la gauche, on va dire, social-démocrate ou écolo-sociale d'un côté, et d'une droite, pour faire court, hein, on va dire, pour faire très court, républicaine, qui naîtra peut-être autour d'Édouard Philippe à droite et au centre.
Et ça apporte
et
du 109.
Et autour d'un leader de gauche, alors là, qui reste à déterminer. Et ça apporte du sens à ce que fait un peu, en catimini, Édouard Philippe aujourd'hui à Fontainebleau.
La discussion montre, et on est en fait plutôt d'accord, qu'il y a une incertitude finalement très forte sur ce scrutin. C'est dans 7 mois et demi seulement, puisqu'elles ont été avancées, ces élections, au 10 avril prochain. On a un morcellement de l'offre électorale comme jamais on l'a eu depuis 2002, où il y avait eu 17 candidats. Là, on est sur une trentaine de candidats potentiels. C'est pour ça que dans notre enquête IFOP JDD de ce matin, on voyait que pour les Français, la primaire était peut-être le moins mauvais moyen pour essayer d'élaguer l'offre électorale. C'est vrai que pour l'instant, le jeu semble confisqué par Marine Le Pen et Emmanuel Macron, mais je pense que les choses peuvent bouger énormément. La percée éventuelle d'Éric Zemmour, une gauche qui pourrait, si je puis dire, s'unifier dans un contexte, non pas les candidats, mais le poids de la gauche dans un contexte où les électeurs de gauche ont clairement intériorisé qu'un troisième 21 avril était tout à fait, voire probable, voire certain. Il y a encore beaucoup d'incertitudes.
Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux que ce week-end, en tout cas, celle qui a marqué des points, c'est Valérie Pécresse ?
Par rapport à qui ?
Par rapport à la droite, parce qu'évidemment, il y a une course.
Je ne pense pas.
Moi,
je ne pense pas. Je n'ai pas de signe tangible qui le montre. C'est vrai qu'il y a eu une enquête d'opinion.
Pas convaincante.
Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas été convaincante.
Je pose la question.
Elle est dans une logique de distinction par rapport à Xavier Bertrand, mais comme Xavier Bertrand, elle n'est plus chez LR. Comme Xavier Bertrand, elle a très fortement attaqué chez vous ce matin et à Brive Emmanuel Macron sur les questions régaliennes.
C'était la raison de ma question.
Voilà, son objectif, c'est de trouver de la distinction. Mais le problème, où là, c'est absolument en rupture avec la primaire de 2016, c'est qu'on ne connaît pas le processus de désignation. En 2016, c'était une primaire où Alain Juppé s'est présenté dès 2014.
Là, vous l'avez entendu avec Franck L'Ouvrier, ils ne savent pas eux-mêmes
l'instant. Donc, Franck L'Ouvrier, on l'a bien compris, ne le souhaite pas.
Mais il n'est pas le seul.
Il n'est pas le seul et Christian Jacob ne le souhaite pas vraiment. On n'entend plus Gérard Larcher.
Il a dit qu'il était silencieux, mais en réalité, effectivement, on sait qu'il ne le souhaite pas.
On sait qu'il ne le souhaite pas. Mais pour répondre plus directement peut-être à votre question sur Valérie Pécresse, non pas que je l'ai trouvée moins bonne ou plus mauvaise qu'avant, loin de là, mais je pense qu'il y a deux éléments qui l'auraient fait. Enfin, il y a un élément qui l'aurait propulsé, peut-être, c'eût été si véritablement elle se détachait dans les sondages, là, ou si un mécanisme de primaire inclusive, peut-être avec Christian Jacob, mais même sans Christian Jacob, même si le processus de primaire avait gagné en crédibilité, elle, en jouant la carte du rassemblement, j'aurais dit peut-être que par rapport à Christian Jacob, elle aurait peut-être remporté quelques points. Or, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et très rapidement, deuxième élément, ce que je disais sur Éric Zemmour, c'est que le fait que Éric Zemmour ait fait une percée médiatique hier en participant à un colloque, le fait que Laurent Wauquiez ne se présente pas donne un peu un espace politique à Éric Zemmour qui, à mon avis, encore une fois, pénalise les LR et donc indirectement, mais pas que, Valérie Pécresse.
La bilingue Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe politique au Parisien, est avec nous. Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'Institut IFOP, en revient dans un petit instant.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et on parle de la rentrée politique avec les grandes voix d'Europe 1, Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien, et Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'Institut IFOP. Frédéric, l'IFOP publie ce matin dans le JDD les intentions de vote pour les primaires de droite et de gauche. Premier enseignement, les Français sont plutôt favorables, à gauche comme à droite, et les sympathisants, eux, je ne sais pas si c'est une surprise, beaucoup plus.
Oui, il n'y a pas de différence entre les Français et les sympathisants. Il y a plutôt un décalage entre les Français et les sympathisants qui veulent une primaire, qui veulent des primaires à gauche comme à droite, parce que c'est le moins mauvais moyen. On est maintenant habitué. Il y a eu une primaire en 2006 au PS, il y en a eu en 2011, il y en a eu deux en 2016-2017. C'est vu comme le moins mauvais moyen pour départager des candidats. Le décalage, il est très fort, on l'a dit, avec les militants, notamment chez LR. Il y avait eu une consultation interne des militants chez LR fin 2017, je crois, où la primaire avait été perçue comme un véritable repoussoir et comme la responsable de l'échec de François Fillon. Donc aujourd'hui, alors que On voit des appareils partisans, Olivier Faure au PS qui veut une primaire mais extrêmement fermée. On vous le disiez, Yannick, tout à l'heure, Christian Jacob qui recule peut-être, qui n'a pas forcément envie d'une primaire. En tout cas, il y a une incertitude aujourd'hui. Il y a 4 candidats à la primaire LR, mais il y a une incertitude sur la réalité, le côté concret de cette primaire. Les Français souhaitent ces primaires, puisque peut-être ceux de gauche comme de droite ont en tête le traumatisme à gauche, notamment du 21 avril 2002, qui a été associé à un trop fort morcellement de l'offre électorale de gauche, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est même parfois faux. En 81, François Mitterrand gagne avec 6 candidats de gauche au premier tour. Il perd en 74 avec un unique candidat, à savoir lui-même.
L'enseignement général, c'est quoi? C'est que les sympathisants veulent sélectionner leurs candidats. J'ai lu que Daniel Fasquelle à La Baule avait dit « Si le parti n'est plus capable de participer au choix du candidat à la présidentielle, il ne sert plus à rien ».
Oui, bah c'est le problème des organisations partisanes. Quand il y a quelques années, on interrogeait des militants de partis de gauche comme de droite, ils avaient deux, je dirais, motivations à militer. D'abord, pouvoir être élu, et deux, désigner leur candidat à la magistrature suprême. C'est maintenant fini, puisque avec les primaires, les partis ont été dépossédés. Ce ne sont pas les primaires qui sont responsables de l'affaiblissement des partis auprès des Français. Il y a une véritable défiance. Ils sont vus comme ne connaissant pas les réalités, éloignés. Mais je dirais le signe, le coup de grâce, ça a été l'organisation de primaires qui sont maintenant rentrées dans les mœurs.
Yannick Halimi.
Les primaires, effectivement, les Français au sens large les sollicitent parce que c'est rationnel.
C'est rationnel?
C'est rationnel parce que tout le monde le dit et le répète, il n'y a plus de candidat naturel, il n'y a plus de ténor politique,
il
n'y a plus de figure charismatique. Et je dirais, pour les LR même, il n'y a plus de parrain. Nicolas Sarkozy...
Mais c'est grave,
Oui, c'est...
Un peu.
Un peu. Enfin, moi, je suis pas, par définition, pour des personnalités qui crèvent l'écran et uniquement pour des personnalités fortes. On juge aussi sur...
Oui, mais des personnalités fortes avec un fond, avec un programme.
Voilà, avec un fond, avec un programme, avec une force de mobilisation et qui pourrait apporter des réponses à des abstentionnistes dont on voit justement qu'ils se multiplient. Et évidemment, c'est les bienvenus. Mais une figure pour une figure, comme vous le dites, sans programme, ni rien... Mais ça peut arriver aussi. Donc un programme, pardon, que l'on change au bout de 6 mois, ce qui revient à peu près au même.
J'entends
de ne pas en avoir.
J'entends ce que vous dites et je le partage, mais n'oublions pas ce qu'est une élection présidentielle. Ce n'est pas un concours de programme. C'est d'abord une incarnation. On connaît dans la geste, dans l'imaginaire populaire, que c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le pays, qui regarde le pays et la France au fond des yeux. L'incarnation compte énormément. On imagine François Mitterrand ou Jacques Chirac passer par une primaire. Laissez-moi rire. Donc c'est vrai que la primaire aussi, c'est aussi le fait que, vous le disiez, il n'y a pas, à gauche comme à droite, des personnalités qui se détachent vraiment et qui sont incontournables, notamment du côté du peuple de droite.
Vous dites ça alors qu'en réalité, François Mitterrand, si on s'en souvient, a été élu pour son programme, pas pour son incarnation.
Si, quand même. Il y avait les 110 propositions, il y avait les urnes de la droite.
Extrêmement audacieux pour l'époque qui a suivi.
Il y a eu une pluralité.
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, d'ailleurs. Parce qu'il était extrêmement tranché, ce programme.
Tout à fait. C'était aussi une époque où il y avait 23 ans de droite dans le pays, il y avait une envie d'alternance, il y avait une usure du président sortant, mais c'est peut-être pas notre sujet
du soir. En tout cas, ce n'était pas, vous avez raison.
Parce qu'on peut justement faire des parallèles avec
le président. Là où je vous rejoins, c'est que François Mitterrand n'était pas la seule figure charismatique, ni à droite, ni à gauche à l'époque. Georges Marchais, Michel Rocard à gauche, et à droite, il y avait aussi des figures très charismatiques. Donc, en tout cas, ce n'était pas le seul. En tout cas, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, pour en revenir, pourquoi est-ce que les Français en général sollicitent et revendiquent et approuvent et plébiscitent, peut-être c'est un bien grand mot, les primaires, parce qu'encore une fois, c'est à peu près le seul élément rationnel. Il n'est peut-être pas raisonnable, mais il est rationnel pour choisir un candidat.
Mais ils veulent être de plus en plus inclus. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la démocratie directe, mais on l'effleure. Ils sont très polis, l'un et l'autre.
On respecte les auditeurs, parce que si on parle en même temps,
cacophonie.
Juste très rapidement, les Français, puisqu'on parle des Français, eux sont plutôt favorables à des primaires ouvertes. C'est-à-dire ouvert à tout le monde, moyennant 1 euro ou 2 euros.
Oui, oui.
Et c'est tout. Parce que sinon, effectivement, ça n'y voit pas trop l'intérêt. C'est plutôt les militants et le jeu des machines politiques partisanes qui jouent leur rôle.
Oui, même s'il y a eu un véritable glissement. En 2011, on a dit que la primaire avait permis à François Hollande de bénéficier d'une véritable dynamique et d'apparaître comme l'incarnation de l'anti-sarkozisme. En 2016, on a dit, et peut-être à juste titre, pour la primaire de droite, malgré un corps électoral important, je rappelle, hein, plus de 4 millions de personnes avaient voté aux deux tours du mois de novembre 2016. C'était une fraction très libérale de la droite. Le centre de gravité de la droite s'était déplacé de manière assez forte. Ce sont des primaires aussi, on le voit dans des enquêtes qualitatives auprès de gens qui sont défavorables à la primaire, qui peuvent réactiver les divisions, les déchirures. Et on sait très bien à quel point le peuple de droite est, comment dire, traumatisé par toute l'histoire de la droite, marquée par des divisions, des déchirures, des guerres, de Balladur-Chirac jusqu'à Copé-Fillon.
Alors, on va changer de sujet, puisque j'aimerais quand même qu'on parle de l'actualité politique d'aujourd'hui, avec ce discours assez offensif de Jean-Luc Mélenchon, qui lui est parti à la conquête des abstentionnistes. Est-ce que c'est une bonne stratégie, Jeannie
Calini ? C'est une bonne stratégie, effectivement, puisque on l'a vu encore aux dernières régionales, l'abstention est extrêmement forte, pardonnez-moi, et elle augmente même sur des... Je parle sous votre contrôle, pour des scrutins nationaux comme la présidentielle, sans atteindre, bien sûr, les scores élevés
2007,
des élections locales, mais en tendance lourde, même à la présidentielle, l'abstention augmente. Alors, Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, a raison de vouloir partir à la conquête, ne serait-ce que démocratiquement parlant, il a bien raison. Le problème pour lui, c'est que ce n'est pas le seul. Et tous les partis politiques de droite comme de gauche...
Oui, mais il a tiré le premier, comme on dit. Oui,
oh, mais... Non, pas vraiment. Attendez, non, mais... tout le monde part à la chasse aux abstentionnistes.
Non, oui, c'est vrai que dans les faits, il a raison. Quand je regarde notre sondage IFOP fiducial, jour du vote, on a 75% d'électorat Jean-Luc Mélenchon, 71% d'électorat Le Pen qui n'a pas voté aux élections régionales. Ça fait des gisements d'électeurs. Mais comme vous le dites, quand on est à 31-32 millions d'abstentionnistes, comme aux dernières élections régionales, même si on sait très bien que la présidentielle n'est pas une élection locale, mais il y a quand même une tendance depuis 2017 où à chaque scrutin depuis les législatives, on a eu une majorité d'abstention. Le glas de l'abstention a touché tout le monde, a touché tous les électorats, a touché un électeur, Macron sur deux. Et je trouve que c'est peut-être facile de la part de Jean-Luc Mélenchon de, je dirais, justifier ses difficultés dans les enquêtes d'opinion par les risques de l'abstention. On va se parler franchement. Les difficultés de la France insoumise, c'est la marque Mélenchon, c'est son image complètement disloquée auprès des Français. Il y a eu un sondage qui montrait que les propositions de la France insoumise étaient très fortement soutenues, mais une
disloquée
présidentielle...
à cause de quoi ?
Ah bah, toute une série d'affaires. Depuis la perquisition,
c'est ce que j'allais
propos,
vous demander. Est-ce que la perquisition a changé Mélenchon ?
Mais complètement, ça a été un acte lourd. On l'a vu dans les enquêtes de l'IFOP qui a disloqué l'image de Jean-Luc Mélenchon et qui a fait disparaître
La République, c'est moi.
Voilà, cette image d'homme calme, ayant de l'humour, maîtrisant ses dossiers, incarnant une vraie alternative, une vraie offre programmatique à la dernière élection présidentielle, cette image a disparu.
Jeannie Calimi.
Oui, là où effectivement Jean-Luc Mélenchon n'a pas totalement raison, pour ne pas dire qu'il a tort, c'est quand il dit, mais vous le disiez Frédéric, l'abstentionnisme, j'en profiterai s'il diminue. On l'a vu aux dernières régionales, vous le disiez, s'il y a un parti qui a pâti de l'abstentionnisme, c'est bien le Rassemblement National. Donc je ne dis pas que tous les abstentionnistes vont se mettre à voter pour le RN, mais en tout cas, on ne peut pas être aussi catégorique que Jean-Luc Mélenchon en disant les abstentionnistes vont voter pour moi. Il ne l'a pas dit comme ça, mais tout d'un... Mais juste pour compléter sur ce qu'on peut dire de la candidature et des discours de Jean-Luc Mélenchon.
Oui.
Bien sûr qu'il y a son image qui est qui est passablement altérée. Mmh. Mais je crois que la faute, l'erreur de Jean-Luc Mélenchon est triple. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté, à mon avis, il a arrêté ses pendules et son corps doctrinal et sa réflexion à 2017. Je veux dire par là, très rapidement, 2017, il pense encore et il rêve encore et il estime qu'il peut atteindre les 19,6% et presque 20%. Or, aujourd'hui, depuis 2017, les choses ont changé. Il y aura vraisemblablement l'année prochaine un candidat communiste en plus à la présidentielle, un candidat écologiste en plus à la présidentielle et peut-être un Arnaud Montebourg qui pourra annoncer sa candidature la semaine prochaine. Mmh. Alors que la dernière fois, il y avait essentiellement un candidat socialiste et un candidat Jean-Luc Mélenchon. Donc compliqué de prétendre à 19-6. Très rapidement, Jean-Luc Mélenchon est resté sur une sorte de communautarisme, on va dire de laïcité ouverte. Or, une grande partie d'électorat de gauche, notamment depuis l'attentat contre Samuel Paty, s'est convertie à une laïcité très forte. Une très forte majorité. Et donc, c'est un électorat de gauche qui n'est plus en phase avec le logiciel intellectuel de Mélenchon et de la France insoumise. Et dernier point, très rapidement, Jean-Luc Mélenchon, encore ce matin, n'a de cesse de parler du peuple. Du peuple. Depuis 2014 et notamment depuis 2017, il a arrêté, vous vous souvenez, de parler de classe sociale, de gauche, et il parle maintenant d'être un leader populiste. Or, le peuple, essentiellement, ce petit peuple qu'il n'a de cesse de viser, les petites classes moyennes, vote plutôt pour la droite et plutôt pour Marine Le Pen. Donc je pense qu'il aura d'énormes difficultés à faire les 19-6 au premier tour dans 7 mois.
Ça sera le mot de la fin. Merci Jeannick Halimi, merci à vous. Frédéric Dabi, merci pour ce débat des grandes voix. Juste après le journal de 19h, vous avez rendez-vous avec Christophe Nicolas pour écouter Le Monde chanter. Et nous parlerons dans le grand débat des idées des 30 km/h maxi. Vous pouvez rouler à 25, à 20, à 15 si vous voulez. C'est dès demain dans Paris.